De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parler, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux, nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, nous n'aurons pas vu le blockbuster Captain Marvel, pas plus que l'évocation de la relation entre Laurel et Hardy, ni le dernier film avec Lucchini, mais on n'a pas chômé non plus Manu.
Oui, donc je vais vous parler de Bête Blonde de Maxime Matray et Alexia Walter et d'un film venu de Singapour, Les Étendues Imaginaires.
Et toi Marine?
Et moi je vais vous parler de Mary Stuart, un film anglais de Josie Rourke.
Eh bien moi je vous parlerai de Cybèle, film du couple franco-turc Shagla Zencirki et Guillaume Giovannetti qu'on écoutera. Et puis on évoquera aussi La meilleure façon de marcher, film de Claude Miller qui ressort sur les écrans, l'occasion d'écouter le réalisateur et un de ses acteurs et de jouer un blind test sur sa filmographie.
À quoi sommes-nous confrontés?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi?
Mary Stuart est condamnée à mort. Sur ordre de notre souveraine Elisabeth, reine d'Angleterre.
Comment en est-on arrivé là?
Eh oui, il ne faisait pas bon être une femme au XVIe siècle en Angleterre. Oui, en ces temps quelque peu tumultueux, si vous étiez une femme affirmée et que vous aviez l'audace de vouloir réconcilier votre royaume, dévoré par les guerres de religion, vous risquiez fort de voir tous vos amis et amants se faire assassiner, de finir mariée de force à votre frère, d'être séparée de votre unique enfant et puis de finir décapitée après de longues années de prison au cours desquelles vous n'aviez même pas accès à Internet. Alors désolé, je vous spoil un petit peu l'intrigue de Mary Stuart de Josie Rourke, mais comme vous l'imaginez, ce sont pas exactement les faits historiques par ailleurs bien connus qui nous intéressent ici, mais le regard que porte la réalisatrice anglaise, dont c'est le premier film, sur ses destins de femmes hors du commun. Car la jeune reine, mariée au roi de France et veuve à 18 ans, revient en Écosse, dont elle est native, avec la ferme intention de reprendre son trône, qui est alors entre les mains de Elisabeth Ière. Diamétralement opposées, à la fois unies et rivales, les deux femmes, entourées par des cours d'hommes qui n'aspirent aucunement à la paix, vont osciller entre affrontements et réconciliation pendant de longues années, jusqu'à l'issue tragique de cette guerre fratricide.
Nous mettons tout notre cœur à servir votre Altesse. Chacun d'entre nous donnerait sa vie pour vous, mais Marie est notre ennemie et elle est catholique.
Elle n'est votre reine que si je n'engendre pas d'héritier.
Le ferez-vous, madame? Car vous nous avez donné peu d'espoir à ce jour.
En dépit de tous vos efforts, elle a pris l'avantage. Elle s'est montrée, en fait, bien plus capable que mon propre conseil. Si je meurs avant mon heure, l'Angleterre pourrait connaître pire sort que de l'avoir accéder au trône.
Ces derniers temps, les films consacrés à des figures de femmes fortes et réalisés par des femmes se multiplient, qu'ils soient commandités par Hollywood, comme le Wonder Woman de Patty Jenkins, Destroyer de Karin Kusama avec Nicole Kidman, ou réalisés en Angleterre, comme Mary Shelley de Haïfa Al-Mansour. Ici, Josie Rourke réussit ce qu'elle visait, à savoir dépasser les figures historiques et créer de véritables personnages complexes, explorant à la fois leurs différences, leurs personnalités et tous les enjeux inhérents à leur époque. En cela, la composition des deux comédiennes est irréprochable. La promo du film est très axée autour de Margot Robbie, donc, qui interprète Elisabeth Ière. Margot Robbie qu'on a découverte dans Le Loup de Wall Street, qui a ensuite été adoubée par le film Moitonia. Mais Mary Stuart est pour le coup vraiment l'avènement de la jeune Saoirse Ronan, j'arrive jamais à prononcer son nom, pourtant rescapée des films pour ados pas folichons et qui est ici de tous les plans du film, dévoilant une gamme de jeux assez remarquable. Au final, Mary Stuart échappe à une mise en scène académique, qui est souvent la malédiction des films historiques. Mais en contrepartie, le film ressemble un peu à un long épisode de Game of Thrones. Afin d'intéresser le spectateur moyen, on a pris pas mal de libertés historiques. On a injecté une sorte de modernité qui est parfois un peu factice. Et il y a tellement d'événements, c'est vrai, à raconter que l'ensemble manque parfois un peu d'unité, un peu de liant, même si le film n'est vraiment pas dépourvu d'éloquence ni d'intensité.
Eh bien, merci Marine. On passe d'un film en costume à une comédie délurée sur le deuil. C'est Bête Blonde.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
On est où?
Vous vous souvenez vraiment de pas?
Bah non. Non, mais c'est pas grave, ça m'arrive tout le temps.
ça spoil un tout petit peu, je dirais. Là,
oui, mais c'est dans la bande-annonce à plusieurs reprises.
C'est dans la bande-annonce. Comme je ne savais pas, c'est bien aussi de ne pas le savoir. Mais bon. Alors en fait, Fabien, le héros de Bête Blonde, hein, se réveille en pleine forêt, l'air égaré de celui qui se demande bien ce qu'il fait là au milieu de nulle part. Alors son étonnement coïncide avec le nôtre, malmené dès l'ouverture avec un film hors norme. Il est entouré de nourriture à moitié avariée, bouffée par les vers. Un homme arrive, lui rend un ouvre-bouteille et l'invite à se joindre à un barbecue à quelques centaines de mètres. Alors toujours hébété, Fabien accepte, se retrouve au milieu d'une bande de potes. Alors pris d'une soudaine fringale, il vole du saumon et s'enfuit dans les bois. Alors voilà un début qui nous change un peu des comédies françaises faisandées et promettant un road movie décalé et excentrique. La suite va évidemment en crescendo, développant alors un univers absurde proche de certains trips surréalistes issus des années 70. Alors Fabien rencontre Yoni, un jeune homme triste qui trimballe dans son sac la tête de son amant mort décapité. Et c'est parti pour une folle virée au rythme indolent, faite de ruptures de ton, de provocations cocasses, de collages d'images et d'humour légèrement anard, voire même assez, on va dire, un peu cracra parfois. Évidemment, l'attitude un peu d'extraterrestre du héros s'explique par son étrange maladie. Il est atteint d'amnésie récurrente, enfin, il ne se rappelle de rien, en gros, toutes les 5-10 minutes. Je ne sais pas si ça existe réellement, hein, ce type de
peut-être, mais on y croit.
Voilà, enfin, peu importe en fait. Hein. Alors, il vit dans une sorte de bulle permanente, hein, impossible de se souvenir des événements. Il végète dans un état instable depuis la mort de son amoureuse dans un accident de moto. On apprendra aussi qu'il a été, dans une vie antérieure, une star d'une sitcom complètement débile. D'ailleurs, certains extraits assez hilarants sont diffusés pour les amateurs d'humour perché au 23e degré.
Hé, hey, sois pas triste.
Patrice.
À l'époque, tout le monde disait que je l'avais tué.
Qui ça?
Corinne. On était jeunes, on était en moto.
Comment tu peux te souvenir d'une série télé qui a plus de 20 ans alors que tu te rappelles pas ce que tu faisais il y a 2 heures?
En fait, c'est parce que je métabolise plus très bien les vitamines.
Alors, entre souvenir d'un deuil impossible et un passé proche qui n'existe pas, Fabien, au gré de rencontres improbables, ne peut se projeter dans l'avenir. Alors, comme s'il était condamné à vivre le temps présent, toujours et toujours. La construction un peu aléatoire, accidentée d'un récit bigarré s'accorde avec l'état mental du personnage principal, toujours surpris par ce qui lui arrive. Ce premier long-métrage libertaire du duo franco-suisse Maxime Matray et Alexia Walter navigue dans les eaux enivrantes proches de la cure de jouvence, déjà fréquentée, on va dire, par des artistes décalés comme, c'est un peu en vrac, Quentin Dupieux, Antoine Peredjenko, mais je dirais surtout Buñuel, tout en parvenant à trouver une personnalité propre, plus proche de la déambulation du rêve éveillé. Alors de surprise en surprise, hein, croisant des silhouettes insolites dans des décors singuliers et égrenés de situations bizarres, ce courageux premier essai alors s'embourbe un petit peu dans une seconde partie au rythme un peu plus flottant. Mais bon, la forme intrigue aussi, tournée en 1:33, hein, mêlant décors naturels qui ont l'air presque irréels, voire faux, et environnement factice qui sonne juste. Bête Blonde est portée par une mise en scène élégante, instaurant subtilement une dimension émotionnelle inattendue. Les jeunes réalisateurs ne sont pas dans la posture, encore moins dans l'imposture. Leur sincérité transpire à l'écran, avec une idée magnifique, hein, qui traverse le film, le motif de la tête coupée, hein, motif qu'on retrouve dans beaucoup de films, notamment, moi je pensais à Barton Fink des frères Cohen, hein, cette tête coupée qui est un peu le souvenir de la personne aimée, qui on peut dire que c'est une allégorie de la perte, du deuil impossible. Alors, un premier film séduisant, apporté aussi par l'interprétation assez épatante, pleine de drôlerie, d'une sorte de nouveau clown un peu étrange, qui s'appelle Thomas Simera, qu'on a déjà vu
dans
l'excellent Apnée, en fait.
Et puis dans Le Voyage au Groenland, dans un autre registre, mais c'est vrai qu'il fait partie de ces acteurs qui prennent part à des comédies libertaires, comme celle-là.
Oui, il a un physique de personnage échappé vraiment d'un film des années 70.
Oui, c'est ça. Eh bien, ce film, Bête Blonde, alors il est dans très peu de salles, mais il est quand même en salle depuis le 6 mars, tout comme l'étonnant Cybèle, un film avec un langage sifflé.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Voilà un film étonnant qui a semé derrière lui quelques prix, notamment du public comme au Cinémètre de Montpellier, aux Rencontres cinématographiques de Cannes, mais qui a aussi conquis les jurys et la presse comme à Locarno. Et ce n'est pas étonnant, Cybèle nous plonge dans un village au nord de la Turquie et suit une jeune femme muette qui, si elle n'a aucune possibilité de s'exprimer avec des mots, peut le faire en sifflant. Et le plus surprenant est que chaque personne du village est capable de lui répondre. L'histoire est d'ailleurs parfaite parfaitement authentique dans ce village de Turquie. Cela fait des générations qu'on apprend le turc et la langue sifflée. La réalisatrice Shagla Zencirki et son compagnon Guillaume Giovanetti ont eu connaissance de cet usage. Alors, venu du documentaire, les deux réalisateurs ont eu l'idée de s'inspirer des us et coutumes du village pour bâtir une histoire fictionnelle à partir de tout ce qu'ils avaient collecté d'histoires et de mythes auprès des habitants. Alors, si auparavant ils construisaient leurs films sans comédien, eh bien cette fois-ci, ils ont pris pour héroïne une actrice réputée en Turquie, et c'était plutôt une bonne idée. Sibel, c'est le prénom donc de l'héroïne. Elle a 25 ans, elle vit avec son père et sa sœur dans un village isolé, muette. Elle est rejetée du fait de son handicap, et si elle travaille avec acharnement aux côtés des autres femmes du village, elle s'en échappe souvent pour rejoindre la forêt. Là, fusil en bandoulière, elle traque un loup qui alimente les craintes des femmes du village. Et le tuer, eh bien, permettrait sûrement de se faire accepter par tout le monde. Mais faute de bête sauvage, elle récupère dans son piège un homme en fuite dont on ne saura rien. Autre loup pour elle, car on imagine bien que Sibel n'a pas connu ni l'amour ni les hommes. Alors le récit, il est multiple. S'il raconte l'émancipation d'une jeune femme par le désir, il raconte aussi la vie des femmes dans une société patriarcale où le destin est de travailler au champ et de se marier. Le mariage concerne aussi d'ailleurs les hommes et notamment le père de Sibel, également maire du village, qui sera partagé entre un amour indéfectible pour sa fille aînée et le poids des traditions, plaçant ainsi un enjeu dramatique, alors supplémentaire. Sibel ressemble autant à un conte initiatique constellé de mythes qu'à une fable sociale et politique prenant pour sujet la Turquie rurale. La réussite du film tient autant à son sujet et à la matière du film. Les réalisateurs ont mis beaucoup de temps à élaborer leur scénario et ont inclus les habitants dans le projet. Le projet, au total, a mis 4 ans quand même à se construire. Mais ça tient aussi également à la superbe lumière, comme au montage et au mouvement de caméra. Alors, Sibel, c'est indéniablement du beau cinéma esthétique et politique. On écoute les deux réalisateurs, c'est un couple dans la ville, parlent de l'origine du projet, de la manière de le conduire et puis, évidemment, de l'actrice.
Hoş geldiniz. İçeri miyiz?
Le vrai point de départ du film, c'est effectivement la langue sifflée. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir certains de nos films, mais nous, on travaille beaucoup sur les langues, le langage, la communication, l'impossibilité de communiquer avec les gens. Et en fait, quand on a commencé à travailler ensemble en 2003, avec Clara, donc ça fait déjà 15 ans, on avait acheté un bouquin sur les langues de l'humanité de Michel Meyer. Et en fait, dans ce bouquin, qui était un gros pavé qui faisait à peu près 1000 pages, il y avait une mention, dans un tout petit paragraphe, d'une langue sifflée dans les montagnes du nord de la Turquie, etc. etc. Mais c'était 2 phrases, enfin, c'était rien. Il n'y avait aucune information où c'était. Enfin, il n'y avait rien, quoi. Mais c'est resté dans nos têtes. Et puis après, on a commencé à faire des films ensemble, à faire des courts-métrages, des documentaires.
Il n'y a pas que la langue. On y va aussi si la bouffe est bien.
C'est le melon de mieux.
Quand on est arrivé sur place, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était une langue, dans le sens où c'était une retranscription de toutes les syllabes du turc en son sifflé qui ont tous leur particularité. C'est pour ça qu'on commence le film par cette petite séquence, ce petit clip derrière le rayon X de la personne qui siffle et on comprend les mouvements de langue, etc. etc. Donc c'était bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, assez fascinant pour nous. Et on s'est dit, on va rester quelques jours là-bas pour voir ce qu'on allait pouvoir faire.
On a vraiment voulu construire, comme en fait on a l'habitude de faire, l'histoire avec la personne qui allait incarner le rôle principal. Et aussi on a voulu la rencontrer en avance parce que Darma Soma c'est quand même une célébrité en Turquie, elle est extrêmement occupée à chaque fois et on savait absolument pas comment elle allait appréhender en fait cette histoire parce que pour une actrice c'est quand même très difficile. On lui prend directement le pouvoir, la force de la parole et en plus siffler ça déforme le visage et peut-être qu'elle est pas du tout dans le cinéma indépendant donc on savait absolument pas. Et on est allé la voir avec que 5 lignes. Il n'y avait pas de scénario à l'époque.
Juste donc, en revenant du village.
Voilà, une jeune femme qui vit dans le nord-est, à la mer Noire de la Turquie. Et là, elle lit les 5 phrases. Elle dit « J'adore, je voudrais trop faire partie de ce projet. C'est juste qu'il y a un problème. Je ne sais absolument pas siffler.
Ah » Voilà, kurdun peşindesin, değil mi?
En fait, il fallait pas que le principal intérêt du film soit la langue sifflée, parce que dans ce cas-là, on est dans un documentaire, etc. Donc très rapidement, nous, on s'est inspiré de la réalité sur place pour construire le personnage de Sibel et tous les personnages qui gravitent autour d'elle, parce que bien évidemment, elle est pas toute seule. Et c'était ça l'intérêt principal, en tout cas pour nous, du projet, c'est-à-dire avoir la langue sifflée comme base, comme support, comme moyen de communication ou pas, et ensuite construire des personnages avec le plus de complexité possible. Dans ce village-là, sachant que voilà, l'écriture et le développement s'est fait beaucoup en allant sur place, en s'inspirant de comment se comportent les gens, les femmes, les hommes, etc. En parlant beaucoup avec les gens, nous on fait toujours ça sur nos films précédents aussi. On leur demande beaucoup de nous raconter des histoires, des mythes, des contes, n'importe quoi en fait. Pas forcément lié au film sur lequel on travaille, simplement pour établir une relation de confiance mutuelle, qu'on puisse se connaître, parce qu'on va chambouler leur vie de toute façon.
Ils sont très très habitués à avoir des caméras dans le village. Et depuis 1960, il y a des équipes étrangères qui fréquentent le village, qui arrivent, qui font des documentaires. Et le problème, c'était toujours, le maire du village, il me disait, ça fait des années et des années qu'ils arrivent, qu'ils font des trucs, ils filment ici, et on n'a jamais rien vu.
Nous écoutions donc les deux réalisateurs de Cybèle, Chagla Zensirki et Guillaume Giovannetti. Et je remercie au passage Christiane Passevent, historienne et journaliste critique de cinéma, qui m'a donné ce son parce que j'avais perdu le mien. Alors que j'ai bien rencontré les réalisateurs, hein, en revanche. Allez, un autre film dans les salles depuis le 6 mars, il nous vient de Singapour, il est aussi très étonnant.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Les images nocturnes d'une usine plantent un décor idéal hein, pour les étendues imaginaires, sorte de néo-film noir. La musique planante jazzy accentue cette impression. L'action se déroule près d'un port à Singapour, lieu désertique 30 ans auparavant, devenu un territoire industrialisé et déshumanisé. No man's land d'un prolétariat travaillant dans des conditions proches de l'illégalité. Alors une atmosphère funeste règne sur cette incarnation du monde moderne. L'inspecteur Locke est envoyé sur place pour enquêter sur la disparition, 3 jours plus tôt, d'un des ouvriers, Wang. Il se heurte à des employeurs délivrant le minimum d'informations par crainte de se retrouver dans une situation gênante au vu des conditions précaires proposées à leurs employés. Les attendus imaginaires hein, commencent comme un polar social plutôt routinier, laissant même une impression de déjà-vu avec des films comme Blind Chef, Black Call ou encore le récent Une pluie sans fin, articulant donc les codes classiques du thriller avec une réflexion sur l'état d'un pays passé d'un régime à un autre, rattrapé par un capitalisme étouffant une population, ne profitant guère de l'évolution d'un pays en croissance constante. Mais rapidement, Yeo Su-hwa laisse en suspens l'arrière-plan social et politique pour dériver vers un ailleurs, une contrée explorant alors l'imaginaire et l'inconscient au point de perturber les repères d'un spectateur aussi fasciné qu'interloqué. Alors ce que le film perd en rationalité, il le gagne en mystère. Le style naturaliste, hein, tout en trompe-l'œil, s'avère d'ailleurs un choix judicieux, presque en contrepoint de la part d'un auteur qui n'affiche pas, on va dire, une singularité ostentatoire identifiable par des tics visuels. Les longs plans fixes filmés dans un magnifique scope érigent un classicisme qui n'est qu'un leurre, une manière d'avancer masquée au cœur d'un récit somnambulique à l'image des deux personnages principaux marqués par la même pathologie, c'est-à-dire le manque de sommeil.
Ces deux personnes sont comme ça, ils ont disparu. Il n'y a personne qui les cherche.
Petite ambiance.
C'est un film assez planant, hein. Faut prendre son temps. Hein. Alors, le film orchestre, on va dire, la covalence entre le réalisme, en décrivant au plus près le quotidien d'individus exploités au travail, et l'onirisme, contaminant un récit qui prend alors la forme d'une pure construction mentale où tout ce qui se déroule sous nos yeux peut être contesté. Alors, l'équivocité des régimes d'images sert admirablement l'agencement d'un récit conventionnel en surface, mais qui ose de surprenantes digressions et surtout de transitions, laissant la possibilité de repenser l'histoire en opérant un changement de point de vue. À la 20e minute, hein, le cinéaste réussit un tour de force narratif. Locke confesse à son coéquipier qu'il a rêvé de Wang la nuit précédente sans jamais l'avoir rencontré ni vu. Il avoue que plus jeune, il rêvait à des choses mystérieuses et bizarres qui se produisaient ensuite lors de ses voyages. Alors tout en énonçant ces paroles étranges, la caméra détourne l'attention portée à Locke et avance lentement vers l'arrière-plan où gravitent les ouvriers au travail. Alors le fameux disparu, Wang, fait son entrée, devenant alors le personnage principal lors d'un flashback que la mise en scène introduit remarquablement. Alors mieux, cette vertigineuse transition installe une ambiguïté assez excitante. Est-ce un flashback ? Ne peut-on pas voir le film sous un angle opposé, à savoir que l'enquête menée par un inspecteur désabusé ne serait qu'un songe, fruit de l'imagination divagante de Wang. En effet, après un accident du travail, l'existence de ce dernier va basculer lorsqu'il va profiter de sa convalescence pour pénétrer dans un cybercafé aux couleurs criardes et rencontrer une mystérieuse jeune femme tenancière de ce lieu de perdition. Alors dès lors, le cinéaste brouille les pistes, parsème le film d'indices et symboles, sans jamais rien valider ni expliciter. Yeo Siwa prend un malin plaisir à multiplier les hypothèses, invitant notre esprit à vagabonder dans ces étendues imaginaires promises par le beau titre français. Le constant va-et-vient entre l'enquête et la quête mystique de Wang finit par imprégner un récit évanescent, proche du rêve éveillé, hein, qui se clôt par une séquence étrange, n'apportant que très peu de réponses. Mais en fait, le film chemine après, c'est-à-dire qu'on comprend davantage de choses 3-4 jours après. Enfin, c'est un peu étrange comme expérience.
Film donc singain pour rien, il n'y en a pas tant que ça, en tout cas il n'y en a pas tant que ça dans l'émission. C'est la partie maintenant eh bien, mémoire de Cinérama, c'est le gros dossier, hein, même avec La meilleure façon de marcher de Claude Miller qui ressort sur les écrans.
C'est un état d'esprit.
Cinérama, chronique, invité et nouvelle du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Toi je le vois pas, c'est ce que tu le fais pour me faire chier. Tu me cherches, toi je le vois pas. Parce que tu m'as vu l'autre fois.
Hein?
Merde, parce que tu m'as vu l'autre fois dans ma chambre. Alors t'imagines.
Je m'en fous de tout ça, moi. Ça me regarde pas.
Alors pourquoi tu te fous de ma gueule? Tu m'as dit que je devrais te rendre service. Qu'est-ce que tu veux au juste?
Direct, notre belle amitié part en couille.
C'était l'année 1976 et un jeune réalisateur sortait son premier film, La meilleure façon de marcher. Ce réalisateur qui avait alors 34 ans, et bien c'est Claude Miller, mort en 2012, à l'âge de 70 ans. Un cinéaste qui a marqué les esprits avec de nombreux films hein, comme Garde à vue, Mortelle randonnée ou encore La petite voleuse. Alors déjà pour son premier long métrage, et bien il réunissait plus de 500 000 spectateurs désireux de voir le duo Patrick Devers, révélé dans Les Valseuses et bien une année plus tôt, opposé à Patrick Bouchitet, tous deux moniteurs dans une colo, mais au style bien opposé. Hein. Si l'un, Patrick Devers, et sportif, grande gueule, viril, l'autre est plutôt renfermé, sensible et discret. Leur relation prend un tournant quand le personnage interprété par Patrick Devers surprend celui joué par Patrick Bouchitet en travesti. Alors que nous étions dans une tendre évocation des colonies de vacances, nous sombrons dans une atmosphère troublante où les deux protagonistes vont alors jouer chacun avec leurs armes et se livrer un combat, tout cela sur fond d'homosexualité refoulée qui trouve une illustration brillante lors d'une des dernières séquences. Alors en juxtaposant le monde des enfants à celui des adultes, en adossant la sensibilité à la brutalité et en mettant en avant le trouble de l'identité sexuelle, Claude Miller parvient à conduire un récit captivant porté par des acteurs convaincants. Devers a par ailleurs manqué hein, le César du meilleur acteur l'année suivante. Alors on écoute Patrick Bouchitet, rencontré il y a quelques années et avec qui nous avions parlé alors au moins 5 minutes de ce rôle qu'il a fait connaître.
Et moi aussi je peux rentrer dans ta chambre comme ça sans crier gare. Et alors, qu'est-ce que je vois?
Ouais. Et alors?
Attends, je trouverai bien.
Quoi?
Tes petites manies, là où ça te chatouille.
Une fois que j'avais lu le scénario, j'avais vraiment envie de le jouer parce que c'était un rôle assez ambigu. Mais j'étais à ce moment-là dans ma vie, que je pouvais me permettre de rentrer dans ce genre de personnage. Claude l'a senti et puis voilà, on a fait des essais avec Patrick, ça s'est très bien passé. Et puis j'ai fait le film. C'est un film qu'on a fait avec peu de moyens, qu'on a tourné en 5 semaines. Voilà, et... il s'est passé plein de choses, quoi, parce que c'est un film très souterrain, quoi. C'est ce que j'aimais, moi. Le non-dit, c'est un film sur la tolérance, avec deux personnages très ancrés, comme ça, dans une colonie de vacances. Ça a été la rencontre avec Patrick, et on s'est liés d'amitié. On est resté plusieurs années très très liés après ce film.
Comme disait ma grand-mère, que j'aimais tant, tu bats la breloque. Tu bats la breloque, mon vieux. Tu bats la breloque, ça veut dire que tu déconnes. Ça veut dire que ça va pas. C'est marrant parce que c'est toi qui es venu me chercher. Tu trouves pas? C'est marrant? Hein? Je veux qu'on soit copain, Marc. Je veux qu'on soit amis. En fait, t'avais la trouille. Alors tu m'as fait un bras de cour. T'as peur que j'aille te raconter ce que j'ai vu?
Tu le ferais pas.
Lamentable. T'es vraiment un branleur. Tu chies dans ton froc.
Donc effectivement, deux personnages complètement différents. Il y a Patrick Devers qui joue un animateur dans une colo avec une certaine morale. Claude Pieplu, la voix des Shadocks, hein, qui joue votre père.
Raoul Delou,
va devoir nous quitter.
Vous, vous êtes ben, le fils qui arrive comme ça, type réservé, amoureux d'une femme, mais très embêté. Il y a cette ambiguïté hein, sur la sexualité.
Pas très bien dans sa peau, très sensible, alors qu'il subit un peu un petit peu cette espèce de pression que lui met son copain qui est moniteur, ses deux moniteurs. Lui, il est assez à la recherche du théâtre, des choses plus... L'autre, il est très un peu comme à l'armée, quoi. Donc, une espèce de rapport sadomaso, il faut le dire, pendant un moment, là, il me cherche, quoi. Jusqu'au moment où il me trouve vraiment. C'est-à-dire que le personnage, lors du bal masqué, la dernière scène, se travestit en femme, mais avec vraiment que ses attributs, sans perruque, sans rien, juste une robe. Et là, je le mécanise, il faut bien le dire. Je reprends le pouvoir, quoi. Et je me suis d'ailleurs aperçu que le fait d'être maquillé, d'avoir une robe, on a quelques atouts, quoi. On peut en profiter.
Faut pas rougir comme ça, mon vieux.
C'est ça qui se passe dans un pajot entre un mec et une fille. L'amour, le cul, les poils. Tu connais pas tout ça? De toute façon, Chantal, ça m'étonnerait que tu lui fasses du mal. Je suis sûr que vous avez jamais tiré un coup, c'est pas vrai? Ça doit lui manquer. À moins qu'elle ait ce qu'il lui faut à Paris. Oh oui, c'est ça. De se faire sauter par d'autres mecs, c'est humain. Tu vois, un mec m'aurait dit ce que je viens de te dire. J'aurais déjà arraché la gueule. Toi, t'as même pas bronché.
Quand on parlait de la meilleure façon de marcher à son réalisateur, il était loin de juger qu'il avait pondu un chef-d'œuvre. On écoute Claude Miller, rencontré en 2010.
Tout le monde me fait beaucoup de compliments sur la meilleure façon de marcher. Et je l'ai revu l'année dernière. C'est un film qui m'a agacé. Enfin, je le trouve réussi dans le détail, mais il y avait quelque chose qui m'a agacé dedans. Et j'ai revu un film que tout le monde a dégueulé dessus, qui s'appelait L'Accompagnatrice.
Oui,
et j'ai trouvé ça vachement bien. Vraiment, on n'est pas intéressant, nous, en tant que juge de nos propres trucs.
Oui, les trucs. Mais effectivement, un réalisateur est-il le meilleur juge de son film ou de ses trucs, comme dirait Miller?
Je vois que les défauts, de toute façon, c'est toujours pareil. Je ne peux pas voir. Je sais ce qui va se passer la seconde suivante. Je sais quel va être le plan suivant. Je ne suis pas spectateur. Je ne suis pas un spectateur normal. C'est pour ça que le montage est un moment tellement difficile. C'est qu'on a beaucoup de mal avoir un détachement de spectateur, c'est très, très, très difficile. Il faut être sensible à la moindre fausse note. Ça sonne mal, c'est plutôt musical. On se dit, ça sonne mal, il y a quelque chose qui ne va pas.
Alors, on revient à Patrick Bouchité qui comprend que le rappel de la façon de marcher à son réalisateur soit maintenant encombrant.
En tout cas, c'est un film où il était très impliqué. C'est un film qui n'a pas pris une ride, quoi. Le sujet est toujours d'actualité. Mais bon, c'est normal, ça l'énerve un petit peu. Non, c'est un grand souvenir, quoi.
Nous vous disons au revoir et à bientôt. Nous conserverons malgré tout un excellent souvenir de vous.
Dites-leur donc quelques mots,
non, non.
Ce serait très gentil et
non,
très élégant.
D'ailleurs, monsieur Deloup va vous dire quelques mots.
Merde !
Cinérama.
Vous faites chier ! Vous faites tout chier ! Merde !
Et apparition remarquée donc de Michel Blanc, voilà, qui se fait virer. Blind Test Claude Miller maintenant. C'est donc bien 5 extraits que l'on va écouter. Évidemment, si vous avez vu ces films, bien c'est très facile.
Il y a deux catégories de flics, les spontanés et les tordus. Vous faites partie des tordus, parce que je vais vous dire une bonne chose, moi. Votre coup de la corne de brume tout à l'heure, hein, ça c'est particulièrement tordu. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je l'ai pas entendu, c'est que j'étais ailleurs. Eh ben oui, oui, j'étais ailleurs. J'étais ailleurs, mais pas où vous croyez. Pas sur les dunes de Saint-Clément. Non, j'étais sur une pute. Voilà. Sur une pute, j'étais parfaitement sur une pute. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne passe pas ma vie dans les couloirs. Je vais chez les putes. Le contraire de Chantal. Les putes sont des femmes qui vous donnent beaucoup de choses pour relativement peu d'argent. C'est comme ça.
Ça a été trouvé, Manu.
Garde à vue.
Oui, avec Michel Serrault et Lino Ventura. Michel Serrault qui avait bien remporté le César du meilleur acteur. Deuxième extrait.
J'ai pas toujours été serveuse, vous savez. J'ai même été servie. Mon père était un grand voleur international. Toutes les polices l'ont pourchassé pendant des années. Le soir de mon anniversaire, Il s'est écroulé avec des diamants dans les poches. Il a dit Happy Birthday, il est mort.
Vous l'aimiez ?
Oui. C'est des conneries, tout ça. Mon père était un gynéco réputé, mon père était un grand pianiste aveugle, mon père était un architecte génial, mon père était quoi encore ?
Ça a été trouvé, Manu.
Mortelle randonnée.
Film de 83 avec Cero Adjani. Troisième extrait.
Tu savais que c'était des collabos, tes Brice.
Ça alors, si tu savais ce que je m'en fous.
Tes Brice, là.
Chez eux, il fait chaud. Je mange à ma faim. La vie a du goût.
Parce qu'elle te file ses vieux rossignols.
Ah, c'est sûr. Les cadeaux, tu t'y connais. Tu peux parler. Jamais j'ai rencontré personne comme elle, si tu veux savoir. Je veux dire aussi bien qu'elle. Je veux lui devenir indispensable. Irremplaçable.
C'est la voix de Romaine Bourringer, Manu.
L'accompagnatrice.
Film de 92, donc, que Miller a plutôt apprécié. Quatrième extrait.
Attends, t'es en train de me dire que les Favreau partent en vacances sans leur gosse et que...
Ah mais y'en a qui laissent leur chien, tu sais. Ah non, il faut enlever les souliers.
Et ils t'ont proposé de le garder ici?
Ah non, c'est moi qui l'a proposé.
Ah oui, c'est toi qui as proposé. Ouais. Et combien de temps? Une semaine, un mois? Et toi, tu m'amènes un petit garçon ici? Mais on peut pas se conduire comme ça. C'est pas possible, ça!
Écoute, j'étais vraiment pas gentille, hein. C'est un crime, maintenant, de rendre service à une amie?
Mais oui, c'est un crime! Oui, c'est un crime! Moi, je m'habituerai jamais à toi! Je t'oblige pas, moi, maman!
Alors, ça n'a pas été trouvé.
Non, non, je cherche.
Alors là, c'est Sandrine Kiberlin et Nicole Garcia. Oui, il manque un autre personnage féminin, Mathilde Seigné.
C'est le titre que j'ai pas en tête.
C'est Betty Fischer et autre histoire, film de 2001, donc de Claude Miller. Et on termine par un grand succès.
Une natte!
Ah! Quand vous aurez fini, vous m'en ferez une aussi, hein, Léon?
Mais c'est pas comme ça! Tu me dis que tu sais, puis tu sais pas! Je suis sûre que c'est pas comme ça! C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison! On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau! Je me demande comment vous pouvez vivre ici! Tout est moche ici, tout est petit! C'est petit, c'est moche, c'est tout! Salut!
Voilà.
Charlotte Gainsbourg avant Nymphomaniaque.
Oui.
Avec une des meilleures chansons du monde quand même. Je tiens à préciser que le tube italien qui accompagnait ce film était génial.
On aurait pu se quitter avec ça, mais on ne le fera pas.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez-moi le camp !
La semaine prochaine, on revient avec une interview et on parlera d'un film libanais, Marine.
Tout à fait, un film qui s'appelle Nour.
Merci et à la semaine prochaine.